Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour se énerver la suite. France Inter plus de monstres sacrés du cinéma. Avec cette semaine, une sélection de la série Écoutez le cinéma des masterclass enregistrée pendant le Festival de Cannes. Ce soir, Alain Delon ouvre la série. On se souvient que le dernier Festival de Cannes lui a rendu hommage avec la remise d'une palme d'honneur pour saluer sa carrière. Mais on se souvient aussi que les relations entre l'acteur et le festival ont connu quelques tumultes. Alors c'est au micro de Samuel Blumenfeld, journaliste au Monde, qu'Alain Delon va revenir sur ses maîtres, René Clément, Luchino Visconti, Jean-Pierre Melville, sur ses pères, Jean Gabin, Lino Ventura, Jean-Paul Belmondo, et sur l'importance déterminante des femmes dans sa vie et dans sa carrière. Si je n'avais pas rencontré les femmes que j'ai rencontrées, aujourd'hui je serais mort. Ce sont les femmes qui m'ont aimé, qui m'ont fait faire ce métier et qui se sont battus pour que je le fasse. Je vous laisse tout de suite découvrir la suite. Plus de Delon, soirée Guépard sur France Inter.
Vous venez à Cannes pour la première fois en 1957. 56 ou 57? Parce que 57, je sais que c'est avec Brigitte Aubert.
Non, fin 56, parce que 57, j'ai tourné mon premier film.
Et donc c'est fin 56, vous venez avec Brigitte Aubert,
l'actrice française de La main au collet d'Alfred Hitchcock.
Absolument.
Et donc, quand vous faites votre premier Cannes, vous n'êtes personne.
J'avais tourné de ma vie, je sors de l'armée, j'avais fait 3 ans d'Indochine et j'arrive de l'armée. Et si je suis avec Brigitte Aubert, c'est pas... Il paraît que j'étais pas de la belle foutue, elle est tombée amoureuse de moi. Alors bon.
Et
elle m'a dit, viens, je t'emmène à Cannes. J'ai dit, c'est quoi Cannes? Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé.
Justement, vous répétez souvent que votre carrière est un accident.
C'est un accident parce que mon enfance, vous la connaissez un peu là-dessus, je m'emmerdais tellement d'être un enfant qui faisait chier tout le monde que j'ai dit je m'en vais, je suis parti en Indochine. Et lorsque je suis rentré, je ne savais absolument pas quoi faire et je n'étais rien. Et si je n'avais pas rencontré les femmes que j'ai rencontrées, il y a très longtemps que je serais mort. Parce que ce sont les femmes qui m'ont aimé, qui m'ont fait faire ce métier, qui ont voulu que je le fasse et qui se sont battues pour que je le fasse.
Lorsque vous tournez votre tout premier film, Quand la femme s'en mêle, d'Yves Allégret, en 1957.
Avec Edwige Feuillère et Jean Servais et Bernard Blier. Oui.
Quand vous arrivez pour votre premier jour de travail devant la caméra, que ressentez-vous? Est-ce que vous avez l'impression d'être immédiatement chez vous, dans votre élément naturel?
Pas tout de suite, mais ça m'est venu très très vite. Pourquoi? Parce que d'abord, j'ai refusé de faire le film. Il a fallu qu'il se batte, que la femme du metteur en scène qui m'aimait a dû se battre pour que je fasse le film. Le metteur en scène voulait que je le fasse. Et avant la première scène du premier jour, il m'a dit « Je voudrais te voir 2 minutes dans la loge, je voudrais te dire quelque chose. » Je dis « Bien sûr, Yves. » Et il m'emmène dans ma loge et il me dit ceci qui m'a marqué pour toute ma vie et qui a été d'une importance capitale pour toute ma vie. Il m'a dit « Écoute Alain, tu connais ton personnage ? » ?»« Oui, oui, oui. Écoute-moi bien. Ne joue pas. Regarde comme tu regardes. Parle comme tu parles. Écoute comme tu écoutes. » Fais tout comme tu le fais, sois toi, ne joue pas, vis.
Colette, il m'arrive un truc formidable.
Qu'est-ce que c'est?
Je suis sûr que je t'aime maintenant. Je vais changer de vie. Je l'achète, le petit croquet d'Antibes.
T'as des sous?
Je peux en avoir. Je connais un type qui me propose le gros lot si je récupère une enveloppe qui se trouve sur le bureau de Monsieur Godot. Moi, je peux pas entrer comme ça dans le bureau du patron. Faut quelqu'un dont on se méfie pas.
Moi, peut-être.
Bon, si tu veux pas, on n'en parle non plus.
Mais jour, ce serait dégoûtant.
Et plus pouvoir s'aimer, ce serait pas dégoûtant. Et la vie que je mène, elle est pas dégoûtante.
Et comme je l'ai dit plus tard, puisque j'étais un accident, je n'ai jamais joué de ma vie. Dans tous les films que j'ai faits, je vis mes rôles. C'est jamais drôle pour la femme qui est avec moi, parce qu'un jour je suis un flic, le lendemain je suis un curé, après je suis un machin. La différence essentielle entre un comédien et un acteur, que je suis un accident, comme Jean Gabin, comme Lino Ventura, comme Burt Lancaster, c'est que faire du cinéma ou du théâtre, c'est une vocation. On s'y prend très tôt, on va à l'école, on prend des cours, on va dans les cours machin, le cours truc, quelque chose. Après, on va au conservatoire et on devient un comédien. Il y a des comédiens absolument fabuleux, comme Jean-Paul Belmondo, par exemple, c'est pas du tout péjoratif. Et puis il y a des gens comme moi, comme Lino, comme Tapie même, je dis toujours un jour Tapie, ça surprend. J'ai dit Tapie, vous voulez faire du cinéma, c'est un acteur, c'est pas un comédien. C'est une personnalité en général qu'on prend, assez forte, et qu'on met au service du cinéma. Mais ce qu'il y a surtout de surprenant et d'exceptionnel, c'est que je me suis tout de suite senti dans mon élément, comme si j'avais été écrit, comme si ça avait été écrit que je devais faire ça. La caméra, c'est pour moi, c'est une femme que je regarde dans les yeux, et j'ai tout de suite senti j'étais dans mon truc, et ça ne s'est jamais arrêté, parce que ça c'était en 57, j'étais que dalle. En 58, on m'a choisi un an après, moi, alors qu'il y avait 150 comédiens à Paris, on m'a choisi pour être le partenaire de Romy Schneider dans Christine, hein. Et en 59, j'étais connu dans le monde entier. Ça fait un triomphe partout grâce à Plein Soleil de René Clément.
Alors justement, Plein Soleil, donc vous incarnez le rôle désormais mythique du criminel Ripley dans Plein Soleil.
Ripley.
Sauf que ce rôle ne vous était pas destiné. Le rôle qui vous était destiné, c'était celui qui sera tenu par Maurice René, donc le rôle secondaire du fils de milliardaire Philippe Greenleaf, qui est tué au bout du premier tiers du film. Or, ce rôle de Ripley que vous allez en fait obtenir avec les dents, vous l'obtenez au bout d'une nuit de discussion avec René Clément, les producteurs de Plein Soleil, les frères Hakim. Pouvez-vous nous raconter cette soirée où vous lisez, vous devez lire le scénario de Plein Soleil et où vous entrez avec le rôle de Philippe Greenleaf et vous ressortez avec celui de Ripley?
Bah, ça s'est passé un soir, je me souviens plus, avenue Machin, là, à côté des Champs-Élysées, où habitait René Clément. Il y avait les deux producteurs qui sont morts, bien sûr, maintenant, les frères Hakim, Robert et Raymond. Il y avait René Clément, et ça se passait chez lui, et il y avait sa femme, Bella, qui était une slave et qui était tout pour René Clément, et qui le contrôlait, et qui le surveillait toujours, et en qui il avait une énorme foi, une énorme confiance. Et puis, les producteurs commencent à me parler, et moi, je dis ce que je pense, gentiment, je dis, mais écoutez, c'est pas pour moi, mais comment vous parlez, mais vous êtes qui, vous êtes personne, on vous propose un rôle, vous nous parlez d'un autre, mais si c'est pas comme ça, je dis, écoutez, moi, vous faites ce que vous voulez, je dis que ce rôle-là, il n'est pas pour moi, moi, c'est celui-là. Mais qui êtes-vous pour parler comme ça? Vous n'avez jamais rien foutu. Ben, je lui dis, j'ai peut-être rien foutu. Mais si je lis, je dis, ça, c'est pas pour moi, c'est celui-là. Et je veux faire celui-là. Le metteur en scène s'énerve un peu, dit, mais enfin, écoutez, Alain, vous êtes avec les producteurs, vous pouvez pas parler comme ça, vous n'avez jamais rien fait, elle n'est pas exemple. Et à ce moment-là, un silence se fait. Ben, moi, c'est comme ça. Si vous voulez pas que je fasse ça, ben, me prenez pas, prenez quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, il y avait Madame René Clément qui était au fond de la cuisine, là-bas, en train d'essuyer sa vaisselle, et qui dit « René chéri, les petits a raison. »
Et donc...
Les petits a raison.
Comme quoi...
Ah, c'est rien... pas des trucs qu'on invente, ça. Hein.
Voilà. Et donc, comme quoi rien ne vous était offert dans votre carrière. Vous êtes allé la chercher. Nous allons passer un extrait de Plein Soleil. Et nous allons voir à quel point Alain Delon est fait pour ce métier. S'il n'est pas fait pour ce métier, personne ne peut le faire.
Je me disais que quand on voit la tronche que j'avais là, je ne sais pas comment ils peuvent faire pour me regarder aujourd'hui. Oh, 59, il n'y en a pas beaucoup qui étaient nés là encore. Hein.
Ce qui me frappe dans cet extrait, et qui en fait nous frappera, nous spectateurs, pour toujours, vous n'êtes pas seulement une belle gueule. Par contre, ce que vous avez, et que personne d'autre n'a, c'est votre manière de bouger. Quand vous entrez dans un espace, vous vous appropriez cet espace-là. Et en fait, cet espace, tout d'un coup, devient le vôtre et personne d'autre. Et l'autre chose, dans chacun de vos gestes de cette scène-là, comme de tous vos films, chaque geste chez vous comporte une part de mystère. On ne sait pas ce que vous allez faire avec. Or, vous bougez, non seulement comme aucun autre acteur de génération, de votre génération ne savait le faire, mais en fait presque comme aucun autre acteur américain ne savait le faire.
René Clément me disait justement, t'as ton décor, t'as une pièce, t'as une chambre, t'as une cuisine, t'as une salle de bain, c'est ton décor. Tu dois bouger dedans, vivre comme tu vis. Et là aussi, René me disait, sois toi, vis comme tu vivrais dans ton décor, fais ce que tu ferais, parle comme tu parles. Là, j'ai un décor où je dois faire semblant d'arranger une chambre pour montrer que j'ai couché là. Il me dit, fais ce que tu veux, décris du papier, froisse. Et tout ce que je fais, c'est Clément qui me l'a demandé, je le fais comme si je l'avais dans la tête.
Vous tournez après Plein Soleil, Rocco et ses frères. Pouvez-vous nous raconter votre rencontre avec Visconti ?
La rencontre avec Visconti, elle est très simple. Elle est basée sur Plein Soleil. Là-dessus, il était en train de jouer une pièce... je ne sais plus laquelle, à Londres.
C'était Don Giovanni.
Don Giovanni à Londres. Avec mon agent, son agent, on est monté à Londres le voir parce qu'il était au théâtre. Et là, elle m'a présenté à lui. Et il m'a dit, vous êtes Rocco, j'ai vu Plein Soleil, j'ai vu Ripley. Rocco, ce sera vous, sauf si vous refusez, ce sera vous parce que je veux que ce soit vous.
Vous parlez, vous venez de mentionner votre agent, enfin, c'était Olga Horstig.
Olga Horstig, c'est pas mon agent, c'est quelqu'un qui m'a... C'est Elvige Feuillère, elle était l'agent d'Elvige Feuillère, de Michel Morgan, de Bernard Blier. Et c'est Elvige Feuillère qui, après mon premier film, lui avait parlé de moi, lui a dit, écoute, Olga, il y a un garçon dans notre film qui m'a l'air plus qu'intéressant. Je lui ai dit d'ailleurs, on n'arrête pas un cheval dans sa course, lui dit-elle. Je voudrais que tu le vois parce que ça peut t'intéresser. Et c'est comme ça que moi, j'ai connu Olga, parce que je n'ai jamais, ça les gens ne le savent pas, je n'ai jamais eu d'agent de ma vie. Ça n'a pas arrêté. Et le seul agent qui a été contacté, c'est parce que c'était l'agent d'Edwige, qui est l'agent de Luchino de Michel Morgan et qui lui a dit, il faut voir ce garçon. Mais je n'ai jamais, jamais eu d'agent et je ne sais pas aujourd'hui que je vais en avoir.
Avant de continuer de parler de Luchino Visconti, nous allons voir à la suite deux courts extraits, le premier de Rocco et ses frères, le second du Guépard.
63.
Tout à fait.
Je ne savais pas, moi, que Simon était à ce point-là. Je savais qu'il lui était arrivé quelque chose qui l'avait changé. Lui qui était si beau.
Non.
Mais je n'avais pas compris que la cause de ce changement, c'était toi.
C'est bon.
Ce n'a rien poussé par le désespoir. Peut agir comme il a fait celui-là.
Non, ça n'a rien trop vulgaire, cruel, comme lui. Moi, je t'aime,
Rocco.
Tu me crois?
Bonjour, mon oncle. Tancrède. Qu'est-ce que tu as encore trafiqué?
Trafiqué? Rien du tout, mon cher oncle. Je suis sorti avec des amis. Ce n'est pas comme quelqu'un que je connais qui est descendu batifoler toute la nuit à Palerme.
Et qui c'est cette personne, selon toi?
Toi-même, mon bon oncle, toi-même.
Bon, je vais rentrer à la maison. J'étais pas venu ici pour chialer. C'est pas le Guépard, mais c'est surtout cette scène merveilleuse avec Annie qui n'est plus là, en haut de la cathédrale de Milan. Cette scène bouleversante qui m'a complètement démoli. Et ils s'en souviennent pas, bien sûr. Je l'aime. Elle-même, je l'aime. Mais mon frère est amoureux d'elle et ce sacrifice que je le fais pour mon frère. Et... Non, c'est pas ça, c'est de voir Annie comme je l'ai vue là. Je pense que certains d'entre vous ont beaucoup vu le film avec Annie Girardot. Ça m'a tué. Elle est magnifique.
Magnifique.
Ça m'a fait vraiment mal. Voilà, merci.
Juste pour rebondir sur la dernière image de l'extrait du Guépard, quand vous voit sortir de la chambre de la chambre de votre oncle, donc incarné par Burt Lancaster, et on vous voit avec ce chien. On a l'impression que cette image, c'est celle du film, mais c'est presque une image qui c'est vous dans la vie aussi un petit peu.
C'est moi dans la vie avec mes chiens dans la vie. Il s'appelait Manu, il est mort il y a longtemps bien sûr. C'était mon chien.
C'était votre chien.
Et non seulement c'était mon chien, mais quand je parle, hein, vous avez vu, il joue comme un acteur. Il me suit partout, il me dit au revoir, il ne veut pas me lâcher. C'est magnifique.
C'est aussi ce qui est frappant dans votre diptyque avec Visconti, donc Rocco et le Guépard, c'est qu'en fait, les deux personnages que vous incarnez, c'est deux facettes de vous. Dans Rocco, ce personnage, justement, cette famille qui vient du Sud, pauvre, pour aller dans le Milan du Nord, riche, industrieux, c'est vous, parce que vous veniez d'une famille, d'un milieu défavorisé, vous venez de la banlieue, vous avez été élevé à Bagneux, à Fresnes, et vous êtes passé par l'armée, et donc vous vous êtes élevé là où vous êtes. Et l'autre facette de votre personnage dans le Guépard, c'est justement quelqu'un qui est en haut, qui appartient à l'aristocratie, et qui incarne un ordre nouveau. Et en 1963, vous êtes la tête de pont d'une nouvelle génération de comédiens.
C'est vous qui le dites, oui.
C'est moi qui le dis. Ben, c'est ce que vous êtes. C'est ce que vous êtes.
Mais je suis tout, je suis rien, Sam. Je suis ce qu'on a fait de moi. Je suis ce que je l'ai encore dit hier. On me dit pourquoi vous acceptez ce prix, etc. J'ai dit vous l'avez refusé ce prix. J'ai dit oui, il y a longtemps que je l'ai refusé parce que je souhaitais que vous le donniez à mes metteurs en scène. Parce que moi, je veux dire, j'ai été un premier violon, j'étais un premier piano, ce que vous voulez. Mais j'ai eu des chefs d'orchestre comme Von Karajan, exceptionnels, les Clément, les Visconti, les Melville, etc. J'ai dit, c'est à eux qu'il faut donner le prix, c'est pas à moi. Et puis, il y a quelques mois, Thierry m'en a reparlé, il m'a dit qu'est-ce qu'on pourrait faire, etc. Et il m'a fait comprendre, et il m'a dit d'ailleurs ce que je savais, il m'a dit, c'est vrai, ils sont tous morts, tous partis. Alors j'ai dit, je vais le prendre pour eux, à leur mémoire, à leur force, à leur talent, et c'est pour ça que je suis là. Sinon, j'y serais pas.
Je voudrais vous demander sur Visconti, qui était votre maître, l'un de vos maîtres, qui est un réalisateur d'une rare exigence. Pourriez-vous me décrire cette exigence ? La discipline qu'il vous imposait sur un plateau.
Et c'est pas la discipline qu'il m'imposait, c'est la discipline que m'imposait la demi-douzaine dont je vous ai cité les noms. Et il y en avait 40 autres. Mais c'était ceux-là, les grands. C'était ceux-là, les vrais. Leur discipline, c'était pas une discipline, c'était le chef d'orchestre, le metteur en scène. Voilà ce que je veux, voilà ce que je veux voir, voilà ce que je veux comprendre, voilà ce que je veux sentir. Là, je veux sentir ton émotion, là, je veux que tu rigoles, là, je veux que tu sois entre les deux. C'était ça, c'est ça, c'est ça, un chef d'orchestre, c'est ça, un Karajan. Et c'est ce qui était Visconti, c'est ce qui était Clément, quand il me disait le décor est à toi, je veux que dedans tu vives comme chez toi et je veux pas que tu joues. Quand il me disait là, le lit, c'est ton lit, c'est chez toi, t'arraches tout, tu fais semblant d'avoir couché avec quelqu'un, t'es pas dans un décor, t'es chez toi, sois toi, fais comme tu fais. Et ils ont tous été comme ça. Et c'est pour ça que c'est extraordinaire. Loukino, en plus, est celui, vous ne le savez peut-être plus, vous le savez, ça, vous en souvenez plus, c'est le premier qui m'a fait faire du théâtre. Oui. En 1960. Elle n'était pas née, la petite, là. En 1960, avec Romy Schneider. Oui.
Dommage qu'elle soit. Ouais.
À Paris, au théâtre de Paris.
Dommage qu'elle soit une putain de
Dommage Ford. Qu'elle soit une prostituée, cette pièce anglaise traduite. Et c'est Loukino qui nous a dirigé pour la première fois. En 60.
Oui.
Et moi, en 57, je rentrais de l'armée, en 56.
vous
en 56, c'est un truc, ça, je dis toujours parce que c'est un souvenir fabuleux. Il y avait la rue Katina à Saïgon, qui est un peu les Champs-Élysées de Saïgon, et il y avait des cinémas. Et un soir, au cinéma, avec des copains, on a été voir en 1954 ou 5, à Saïgon, Touchez pas au Grisby. Gabin. Moreau, Doradol et tout, paf.
Ventura.
Ventura. Et quand j'ai été la première fois dans Mélodie en sous-sol, tourné avec Jean, je lui raconte l'histoire. Il riait comme un fou. Je lui dis, Jean, si on m'avait dit en 5 ans, je vais vous donner la réplique, j'aurais dit, va te faire foutre, connard. Arrête tes conneries. Et il n'en revenait pas.
Et justement, vous tournez Mélodie en sous-sol juste après.
63.
63, juste après Le Guépard. Et vous le tournez en partie parce que vous voulez travailler avec Gabin.
Non, pas parce que je voulais travailler avec Gabin, parce que j'étais choisi. Bien sûr que je voulais travailler avec Gabin, mais il faut me choisir pour travailler avec Gabin.
Ça, c'est vrai.
Il faut que les producteurs me prennent et que le metteur en scène me veuille et que l'acteur dise OK. Oui. J'étais pas tout seul. Hein.
Et vous allez tourner trois fois, vous allez tourner plusieurs fois avec Gabin, vous allez tourner plus tard Le Clan des Siciliens en 69.
Le Clan des Siciliens, Mélodie en sous-sol, est surtout le plus beau film que j'espère que beaucoup ici ont vu, sinon voyez-le vite parce qu'il est fabuleux. C'est Deux Hommes dans la Ville.
Deux Hommes dans la Ville, de José Giovanni, qui est un film bouleversant contre la peine de mort.
Contre la peine de mort, où je subis à la fin du film la guillotine, et c'est très très beau.
Absolument, qui est une scène traumatisante. Vraiment très 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 dur, mais véritablement c'est un film méconnu et remarquable. Remarquable.
Je suis d'accord avec vous.
Il y a un film plus méconnu dans votre filmographie, après Mélodie en sous-sol, qui est L'insoumis d'Alain Cavalier. Ouais. C'est un film plus méconnu et pourtant qui gagnerait vraiment à avoir une réputation plus grande. C'est d'abord le premier film que vous produisez. Le
premier film que je produis en 64.
Voilà. L'indice en fait que très tôt vous prenez votre carrière en main et carrière que vous ne lâcherez plus jamais. Vous êtes justement de cette race d'acteurs qui ont toujours été indépendants, qui ont toujours présidé au règne de leur destinée. La deuxième chose aussi très importante dans la soumission d'Alain Cavalier, c'est que c'est un des rares films français contre la guerre d'Algérie. Vous incarnez justement un ancien soldat de la guerre d'Algérie qui se retrouve du côté de l'OS et qui, refusant d'exécuter une avocate liée au FLN, se retrouve en fait la cible de ses anciens commanditaires de l'OS. Vous tournez avec Alain Cavalier et c'est la première fois que vous tournez avec un metteur en scène de votre génération, qui a, je crois, 3 ans de plus que vous. Pour vos débuts dans la production, c'est comme un film pour le moins gonflé. Vous n'avez peur de rien.
Ben non, sinon je ne serais pas là. Mais c'est le premier film que j'ai produit, effectivement. Il y avait Léa Massary aussi.
Absolument, qui est dans le rôle de l'avocate, qui est magnifique.
Magnifique. J'ai eu envie de produire ce film-là en 64 à cause de l'histoire, d'abord. Mais surtout, il faut comprendre pourquoi j'ai été producteur, parce que j'ai produit après une 25 films ou quelque chose, dont Les Borsalino et tous les films où le public le souhaitait, ou tous les films où il y avait le mot flic dedans, parole de flic, pour la peau d'un flic, machin. J'ai produit tous ces films-là que le public voulait que je fasse, parce que je ne suis pas un auteur. Je ne suis pas un écrivain. Je ne sais pas écrire. Je n'ai pas été à l'école. Donc ma seule force, pour moi, c'était d'être patron du film. Et pour être patron du film, il fallait que je sois producteur. Ça me permettait d'engager les auteurs, Jean-Claude Carrière, d'engager les metteurs en scène, d'engager les chefs opérateurs, d'engager les acteurs. J'étais le maître et le patron du film. Et c'était la seule façon pour moi de faire ce que je ne pouvais pas faire si j'avais été comme Audiard. J'aurais écrit pour Gabin, j'aurais écrit pour Montand, j'aurais dit, vous voyez ce que je veux dire. Donc je suis devenu producteur parce que je n'étais pas auteur. I like to see everything in neon. Drink lime green, stay up till dawn. Maybe the way that I'm living is killing me. I like to light up the stage with a song. Do shit to keep me turned on. But one day I woke up like maybe I'll do it differently. So I moved to California, but it's just a state of mind. It turns out everywhere you go, you take yourself, that's not a lie. Wish that you would hold me or just say that you were mine. It's killing me slowly. Dream a little dream of me. Sweet, turn the radio on, dance into a bar.
Fuck It, I Love You. Alors ça, c'est une putain de déclaration d'amour signée Lana Del Rey, programmation Fuck de Jean-Baptiste Audibert. Et l'on retrouve tout de suite Alain Delon en masterclass animé par Samuel Blumenfeld du journal Le Monde. Quand Alain Delon revient sur ses différentes morts au cinéma, est-ce que ça en fait un acteur de tragédie? Peut-être, mais pas que.
J'aimerais revenir sur une image du film de l'Insoumis, qui est la fin, qui est une fin extraordinaire, où votre personnage, finalement abattu, blessé à mort par ses anciens commanditaires de l'OAS, va mourir seul au milieu des chevaux. C'est votre première mort au cinéma, la première d'une longue série de morts au cinéma, parce que vous êtes un comédien qui sait extrêmement bien mourir, vous êtes un comédien tragique. Bah oui, vos morts au cinéma, si vous voulez, je pense au Samouraï, je pense à la veuve Coudert, je pense au tueur de San Francisco. Vous incarnez le personnage tragique par excellence. Mais justement, pour revenir à l'Insoumis, cette manière dont vous voyez mourir seul au milieu des chevaux...
Sterling Hayden, je cherchais le mot parce que j'ai des problèmes de thyroïdite. Vous en souviendrez peut-être, vous, eux s'en souviendront pas, il y a un grand acteur américain qui s'appelait Sterling Hayden, qui a tourné un film dont j'ai oublié le titre.
Quand la ville d'or de John Huston.
Comme la vie d'or, et qui mourait à la fin au milieu de ses chevaux.
Absolument.
Et j'ai fait cette fin de l'Insoumis en souvenir, en émotion, en remerciement de l'acteur qui était Sterling Hayden, et c'est pour ça que j'ai voulu mourir au milieu de chevaux et de mes chevaux.
L'Insoumis est le film que vous produisez juste avant de partir à Hollywood. Votre carrière hollywoodienne, ce sont trois films. Les Tueurs de San Francisco, Texas Across the River, et le troisième film, également contre la guerre d'Algérie, Les Centurions, de Mark Robson. En fait, quand vous partez à Hollywood, ce qui est frappant, c'est un moment où la nouvelle vague en France est très importante. Et à l'exception de Jean-Luc Godard, avec lequel vous tournerez beaucoup plus tard, très bien nommé Nouvelle Vague en 1990, la Nouvelle Vague passe à côté de vous. Les réalisateurs de la Nouvelle Vague, François Truffaut, Claude Chabrol...
Non, ils ne passent pas à côté de moi, ils n'ont pas voulu de moi, ils ne voulaient pas de moi. Personne ne voulait de moi dans la Nouvelle Vague, parce que Delon, c'était Visconti, c'était Clément, c'était Melville, c'était tout ça, et surtout pas la Nouvelle Vague, et je n'ai jamais tourné avec la Nouvelle Vague, sauf quelques années après... où j'ai eu la chance de faire un film parce que je l'ai voulu, que je lui en ai parlé, que j'ai eu envie avec Godard, qui s'appelait...
Nouvelle Vague.
Pardon ?
Nouvelle Vague.
Nouvelle Vague. Donc la Nouvelle Vague, pour la Nouvelle Vague de l'époque, les Chabrol et machin, j'étais banni. J'en avais rien à foutre d'ailleurs, complètement. Je me foutais, pas besoin d'eux. Mais ça n'a aucun rapport avec l'Amérique. Je suis parti avec l'Amérique parce que j'ai ces propositions américaines, parce que j'ai un grand producteur, Selznick, dans la métro Goldwyn-Mayer, oui, qui voulait que je vienne faire une carrière en Amérique.
Vous étiez sous contrat avec la MGM.
J'étais deux ans, et j'ai foutu le camp, parce que la France me manquait trop, Paris me manquait trop, le cinéma français, et j'ai dit merci les Américains, je suis revenu.
Parce que cette carrière-là, si vous aviez voulu la faire, vous l'auriez faite.
J'aurais pu la faire, oui. Ils me voulaient. Et vivre en Amérique, excusez-moi, ça ne va pas.
Non. C'est... D'ailleurs, c'est en revenant des États-Unis, donc dans la deuxième moitié des années 60, que vous allez enchaîner une série de films qui sont parmi les cimes de votre filmographie. L'un de ces premiers, le premier chef-d'œuvre de votre, lorsque vous retournez aux États-Unis, c'est Le Samouraï de Jean-Pierre Melville. Le Samouraï, c'est un scénario que Jean-Pierre Melville écrit avec vous en tête. Personne d'autre. Et d'ailleurs, si vous aviez dit non, ce film ne serait jamais advenu. Pouvez-vous nous raconter votre première rencontre avec Melville, lorsqu'il va chez vous, dans votre hôtel particulier, avenue de Messine, vous lire en personne le scénario du Samouraï?
Bon, ça va aller très vite et c'est très simple, parce qu'effectivement, il m'a donné rendez-vous, comme vous le savez, avenue de Messine, dans mon hôtel particulier. On s'est assis dans le salon, il avait son scénario, il m'a dit « Écoutez Alain, je vais vous lire une histoire, c'est mon scénario, c'est ce que je souhaiterais faire avec vous, je l'ai écrit pour vous, ça s'appelle Le Samouraï ». Je savais ce qu'était qu'un samouraï, puisque vous le savez, depuis très longtemps, je suis une star au Japon, depuis plein soleil. Il m'appelle Le Samouraï du printemps, enfin tout ce qu'on veut. Et Melville commence à me raconter l'histoire. Et je suis là assis. Et au bout de 4-5 minutes, il me raconte l'histoire. Je suis là. Et, Jeff, il m'appelait Jeff.
Jeff Costello.
Jeff Costello faisait ça. Et je n'avais pas encore dit un mot. Et je l'arrête comme ça. Je lui dis, mais Jean-Pierre, ça fait 5 minutes que vous me racontez l'histoire et je n'ai pas dit un mot. Il me dit, non, pas encore. Ça viendra plus tard. Je lui dis, alors, c'est pas la peine d'être plus loin. Je fais le film. Je vais vous raconter une anecdote. Je voudrais encore que je fasse un effort pour pas verser une larme. Elle est vraie et elle est belle. Vous avez vu la première scène dans ma chambre où je vis seul avec mon piaf dans sa niche. Et un jour, à 6h du matin, le téléphone sonne. Oui, Alain Delon, bonjour, c'est RTL. Je lui dis, oui, t'es à couille. Oh, pardon, excuse-moi. M'a fait pas chier. Oui, non, mais absolument, c'est RTL. Les studios de Melville sont en train de brûler. Les studios de Melville ont pris feu, régénèrent, etc. Non, mais tu déconnes. Mais je vous assure, bref. Je prends ma voiture, je fonce au juge de Melville. La rue était bouchée par les flics. Ils me voient, ils me laissent passer. Je garde ma voiture. Et je vois là, en face, Melville avec son chapeau machin, sa robe
Stetson,
de...
son Stetson,
sa robe de chambre, sa femme, sa secrétaire, et qui regardait brûler sa vie. Je me mets à côté de lui, comme ça, je lui prends le bras pour qu'il voit que je suis là et je lui tiens la main. Et il regarde brûler sa vie, ses studios, ses films, son passé, ses bouquins, ses lettres, tout, toute sa vie brûlait, etc. Et à un moment, il m'appelait toujours mon coco quand on travaillait. Et on regarde toute sa vie brûler comme ça, 50 ans de carrière, de vie, et à un moment, il me fait, mon coco, notre oiseau. Sa vie brûlait, toute sa carrière brûlait, tout était foutu, et il pensait à notre piaf, qui était en train de griller. Et rien d'autre. Mon coco, notre oiseau.
La musique que l'on écoute dans Le Samouraï, c'est François Droubet. François Droubet, c'est l'une des premières musiques électroniques que l'on peut écouter au cinéma, qui produit un effet sensationnel dans le film. François Droubet, c'est vous qui le conseillez à Melville? C'est vous qui l'amenez sur le film?
Oui, parce que je l'avais eu dans Les Aventuriers, oui. Avec...
De Robert Enrico avec Lino,
Reggiani et compagnie, et que j'aimais beaucoup, beaucoup, François Droubet. Oui.
Ce qu'on voit dans cet extrait du Samouraï, quand on voit votre personnage, donc de tueur à gages, Jeff Costello, se lever de son lit et ajuster son chapeau, les bords de son chapeau.
Ça.
Oui, ça. C'est Jean-Pierre. Mais vous êtes tellement à l'aise justement avec cette gestuelle-là. Quand la plupart des acteurs ont besoin de se dire qu'il leur faut du texte pour briller. Vous, non. Ce mutisme-là, cette gestuelle-là, vous étiez parfaitement à l'aise avec, et c'était ce que recherchait Melville également. Je dis ça parce que vous tournerez 3 films avec Melville, donc Le Samouraï en 1967, Le Cercle Rouge en 1970, et Un Flic en 1972. 3 films, 3 chefs-d'œuvre, et votre collaboration avec Melville est peut-être l'une des plus fructueuses, va vous former tous les deux un des couples les plus harmonieux d'histoire du cinéma. Je dis pas ça pour vous passer de la brillantine, hein, c'est pas ça. C'est que votre entente, qui se passe de mots, est l'une des plus fortes que l'on ait pu voir sur un écran. Et d'ailleurs, ça donne des films que l'on voit.
J'ai encore raconté une anecdote.
Autant que vous voulez.
On avait un 4e film en projet avec Jean-Pierre, qui s'appelait... Je ne me souviens plus maintenant.
Arsène Lupin.
Et puis un jour, Jean-Pierre est invité à déjeuner par un grand ami à lui qui faisait un petit peu de cinéma, c'est un journaliste, qui a touché à la caméra parce qu'il était tellement impressionné par Jean-Pierre, par Melville, et qui voulait être un sous-Melville. Vous le connaissez très bien, les gens le connaissent aussi très bien, il s'appelle Philippe Labro.
Oui.
Et un jour, Philippe l'appelle, lui dit, viens, on va déjeuner à côté de, je sais pas quoi, dans un bistrot, là, je voudrais te parler de quelque chose, etc. Et Philippe faisait souvent rire. Jean-Pierre lui amusait, lui racontait des conneries, des histoires. Et bref, ils sont en train de déjeuner. Et puis, Philippe lui raconte une connerie. Et Jean-Pierre, qui adorait les bêtises, qui adorait les histoires, se met à rire. Fait et il est mort.
C'était son AVC, c'est là qu'il fait son AVC.
Il est mort d'un éclat de rire, ouais, provoqué par son ami journaliste. Il est mort d'un éclat de rire. J'en ai beaucoup souffert, mais j'étais très heureux parce qu'il ne s'est pas rendu compte qu'il était mort. Il n'a pas souffert de la mort. Il n'a pas été dans un hôpital. Il a vraiment éclaté de rire, rié en poussant sa robe. Il est mort. Voilà. La mort de Melville, vous ne la connaissiez pas, je vous la raconte.
Vous tournez, enfin justement, à la fin des années 60, début des années 70, vous tournez ce qui est un moment où vous enchaînez à la fois une série de chef-d'œuvre, de très grands films et aussi de films qui sont extraordinairement populaires. Vous tournez La Piscine de Jacques Doré avec Romy Schneider. Vous formez avec elle à l'écran un couple hors du commun. Vous avez formé auparavant, vous avez été un couple dans la vie, mais c'est vous qui sortez Romy Schneider du quasi-oubli dans lequel elle se trouvait à la fin des années 1960.
Le film se fait, on me présente La Piscine, on me lit le scénario, les producteurs, qui s'appelaient Bétou, Pinière et Bétou, qui sont morts, bien sûr. Je trouve l'histoire très bonne, et ils me disent, voilà, on voudrait faire ce film avec une actrice américaine superbe qui s'appelle Angie Dickinson. C'était une star à l'époque.
L'actrice de Rio Bravo, entre autres choses.
C'est ça, et entre autres choses, la maîtresse de...
Ah là, je suis moins bon pour ça.
Mais du président.
Ah, de JFK, absolument, absolument. Quand avec le Rat Pack, très juste, voilà. Tout à fait.
Du président de la République.
Tout à fait. Ça fait partie de l'histoire, voilà. Ça, effectivement.
Alors, donc, Angie Dickinson, et puis ils avaient pensé à une autre actrice aussi, Monica Vitti, etc., etc.
Avec laquelle vous aviez tourné l'éclipse de Michelangelo Antonioni en 62.
Michelangelo Antonioni en 61, je ne sais pas quoi. Et puis, moi, j'aime bien lu l'histoire et je voyais Romy parce que je la connaissais bien. Je savais qu'elle était complètement en déroute, qu'elle ne faisait plus rien, personne ne voulait plus, en Allemagne, en Amérique ou ailleurs. Je voyais pas quelqu'un d'autre. Alors, il y a eu des discussions, sont venues, et que jusqu'au jour où, comme j'avais le pouvoir dans le cinéma et dans la profession, je faisais ce que je voulais quand je voulais. J'ai dit, écoutez, ce sera Romy Schneider. Mais non, mais vous rendez pas compte, elle est plus rien, on n'en peut pas, Romy Schneider, elle en est long, la piscine, bon, rien. J'ai dit, écoutez, au bout d'un moment, je dis, maintenant, vous m'emmerdez, ou ce sera Romy Schneider, ou il n'y aura pas de film. Ils ont réfléchi, ils sont battus, ils ont parlé pour l'octobre. Bon. Ok, prenez Romy Schneider, et puis faites le film. Ça a été un triomphe, le film. Je vous en parle pas. Vous avez beaucoup d'entre vous l'ont vu. Moi, je ne peux plus le voir et je ne peux pas le voir lorsqu'il y a des projections privées pour spectateurs parce que c'est pas possible. Et le film est magnifique. Tout le monde m'a dit, comme t'as eu raison, je vois pas qui aurait pu être mieux que Romy dans ce film. Oui.
Et elle devient
la grande actrice française, prise par Sautet, prise par tout cela.
Zulawski.
Et elle a fait vraiment une seconde carrière immédiatement qui a été énorme. Jusqu'à, malheureusement, là, on ne va pas encore parler d'anecdotes, jusqu'à la fin de sa vie, et on sait pourquoi. Oui.
Dans ces années 70, bon, qui est une période extraordinairement fructueuse et brillante pour vous, il y a un film à part, hein, Monsieur Klein, de Joseph Losey. C'est encore une fois un film que vous produisez. Je tiens aussi à dire que, vu une époque, celle que l'on vit, où la tolérance n'est pas toujours de mise. C'est un film que vous produisez avec un réalisateur américain, Joseph Losey, communiste, avec lequel vous avez tourné L'Assassinat de Trotsky.
Qui vit en Angleterre, parce que communiste et que les Américains l'ont viré.
Qui a dû quitter les États-Unis, car la liste est noire. C'est un film qui est écrit par un très grand scénariste italien, Franco Solinas, également communiste. Vous, vos opinions politiques, tout le monde les connaît, vous n'en faites pas mystère, vous êtes gaulliste. Et donc, vous travaillez avec des gens qui ne sont pas de votre bord, avec une tolérance que l'on aimerait bien trouver aujourd'hui. Qui plus est, Monsieur Klein n'est pas n'importe quel film, pas n'importe quelle histoire. C'est un film sur la rafle du Valdiv, donc 16 et 17 juillet 1942. Plus de 13 000 Français juifs sont déportés, puis envoyés dans des camps d'extermination par la République française. C'est un tabou dans l'histoire, dans la société française, c'est un tabou dans l'histoire de France, nous sommes en 1976, et c'est bien évidemment un tabou au cinéma. Et c'est le film que vous produisez, et dans lequel vous tenez le rôle principal. Donc nous allons voir un extrait, non pas la première scène du film, mais la première scène dans laquelle vous apparaissez dans le film.
Il s'agissait de francs, oui, louis d'or. C'est vrai que l'étranger ne valait rien.
Non, nous l'avons toujours eu à la maison, depuis toujours.
C'est une formalité. Bon, eh bien, si vous voulez bien écrire, je sous-signais, nom, prénom, adresse.
Non, pas besoin d'adresse. Nom, prénom.
Je déclare, c'était à monsieur Robert Klein, pour une somme convenue et qui me satisfait. Convenue et qui me satisfait. Un tableau d'Adrien Van Ostade. 50 cm sur 30 et qui représente le portrait d'un gentilhomme hollandais.
Et au revoir, monsieur. Bon voyage et bonne chance.
Bonne chance alors, monsieur Klein.
Jouer dans ce film-là, vous étiez au sommet de votre notoriété. Vous acceptez de produire et de jouer dans le film le plus risqué qui soit.
C'est ça qui m'excite.
Quand on vous voit donc dans le film, vous incarnez un marchand d'art qui achète à vil prix des œuvres d'art à des Français juifs qui ont besoin ou qui essayent de quitter le pays alors que se prépare la fameuse rafle. Votre personnage, ce marchand d'art, sera pris au piège de son identité, au piège de son patronyme, Monsieur Klein, et soupçonné par le pouvoir vichysois d'être lui aussi juif, et terminera dans cette fameuse rafle, et donc déporté lui aussi. Quand on vous voit dans cette scène extraordinaire, vous s'emparez, on voit votre personnage s'emparer de cette toile dans Van Ostade, et le plaisir qu'a votre personnage de découvrir cette toile, de découvrir ce dessin, on comprend tout de suite que ce plaisir-là n'est pas fin parce que vous êtes un grand collectionneur d'art, vous avez un goût très affirmé, et ce plaisir-là, on le sent à l'écran. Vous n'avez pas choisi ce personnage-là par hasard.
Non, parce que j'ai voulu faire ce personnage, j'ai voulu faire ce film, le produire, c'est autre chose, mais j'ai voulu le faire justement parce que c'était tout ce que je n'avais jamais fait, tout ce que je n'étais pas, et tout ce que j'allais découvrir. Et jusqu'à la fin, qui pour moi était absolument bouleversante, c'est que j'avais mon partenaire qui s'appelait...
Celui qui joue votre avocat, Michel Lonsdale,
qui, au moment de la ralphe du Valdiv, me court après et qui m'appelle Robert. Et la fin n'était pas du tout comme ça. La fin, il me rejoignait, il m'arrêtait et il m'enlevait de la foule. Et il m'enlevait de la ralph et du Valdiv, etc. Je lui dis, Joseph, je veux pas ça. Je veux aller jusqu'au bout. Je veux justement, parce que je n'ai jamais fait ça, je veux vivre exactement comme le Robert Klein que je ne suis pas, mais que je pourrais être. Je veux pas qu'il m'arrête. Je veux faire la ralph du Valdiv. Je suis emporté. Je sais où je vais. On va m'emmener dans le métro, dans le train, et on va me tuer. Et je veux cette fin.
C'était le NRV France Inter plus de monstres du cinéma. Premier épisode, la masterclass d'Alain Delon. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Demain, on roule des hanches avec John Travolta. Je vous souhaite le bonsoir.